RFI, il est 22h10 à Téhéran, 21h10 à Paris.
Décryptage. Alban Le Prince.
11e jour de la guerre entre Israël et l'Iran, au lendemain de frappes américaines sur des sites nucléaires iraniens et la riposte il y a quelques heures de l'Iran sur des bases américaines. Le régime des Mollahs est-il sur le point de tomber? Pour en parler, je reçois ce soir Shora Makaremi, anthropologue chargée de recherche au CNRS et au laboratoire d'anthropologie politique, spécialiste de l'Iran, de la violence et des femmes. Bonsoir.
Bonsoir.
Je reçois également Azadeh Kian, professeure de sociologie à l'université Paris-Cité, directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour les études féministes. Bonsoir.
Bonsoir.
On en parlait un petit peu plus tôt dans ce journal. Ça y est, l'Iran a décidé de répliquer aux frappes américaines d'hier. Selon le média américain Axios, Téhéran a lancé 6 missiles. La base américaine d'Al-Udeida au Qatar a été visée. Azadeh Kian, est-ce que vous avez une réaction ce soir?
Oui, tout à fait. Il me semble que bien avant le lancement des missiles, l'espace aérien du Qatar a été fermé, ce qui laisse entendre que les autorités qatarites, au moins, avaient été mises au courant par les Iraniens de lancement de ces missiles. Les Iraniens voulaient sauver la face et répliquer au bombardement de leur site nucléaire de Fordow et de Natanz et d'Ispahan en lançant donc des missiles contre les bases militaires américaines dans la région, à commencer par le Qatar, mais sans laisser de blessés ou de morts américains, parce qu'ils craignent en même temps la riposte de Donald Trump, qui avait promis de bombarder l'ensemble de l'Iran si jamais ce genre d'attaque contre ses soldats est effectuée par l'Iran. En même temps, ils veulent aussi, à mon sens, lancer un avertissement aux Américains, à la population américaine, au soutien de Donald Trump d'une implication plus directe des États-Unis dans cette guerre Israël-Iran. Voilà, je pense que malheureusement, on peut s'attendre à ce que les Iraniens continuent à viser, soit directement eux-mêmes, soit par leur groupe de proxy dans la région, des bases militaires américaines, parce que, voilà, si ils veulent effectivement aussi montrer à leur propre base en Iran qu'ils ont toujours la capacité de riposte militaire.
Azadeh Kian, très rapidement, vous me dites que le Qatar a peut-être été prévenu. Cependant, ce soir, il dit se réserver le droit de répondre à l'attaque iranienne. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça, c'est une réponse aux États-Unis, parce que le Qatar est en bon terme avec à la fois l'Iran et les États-Unis. Il me semble que les Qataris étaient obligés quand même de répondre aussi à ces attaques iraniennes. De toute façon, les attaques ne sont absolument pas souhaitées ni voulues, ni par le Qatar, ni par d'autres États arabes de la région du Golfe Persique. Mais en même temps, c'est aussi pour se protéger, le Qatar et les autres États, de dire qu'on est en dehors de cette guerre Iran-Israël-États-Unis, on ne veut pas être impliqué, on ne veut pas subir les conséquences de cette guerre. Donc la réponse de Qatar me paraît tout à fait logique.
Shora Makaremi, je me tourne vers vous. Hier, Donald Trump, le président américain, il n'a pas directement plaidé pour un changement de régime, il a émis cette idée. Tout à l'heure, Emmanuel Macron a déclaré qu'on ne pouvait pas se substituer à un peuple pour changer ses dirigeants. Est-ce un appel à une révolution, peut-être ?
Écoutez,
un soulèvement.
Oui, oui. En fait, le gros problème qu'on a là, c'est que plus personne ne croit à ce que dit Donald Trump, c'est-à-dire que il peut dire une chose un jour et le contraire le lendemain. Et c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que il y a ce qui se passe en Iran qui est d'une grande tragédie, avec un peuple qui est vraiment pris entre le marteau et l'enclume. Mais pour l'instant, le marteau frappe très fort. Et puis par ailleurs, il y a ce que cette crise, qui n'est pas appelée guerre, fait à l'ordre international. Et notamment, ça abîme le droit international, ça abîme la démocratie américaine parce que Donald Trump prend ses décisions de façon unilatérale sans passer par le Congrès. Et ça abîme également, on va dire, la diplomatie ou le jeu politique international dans la mesure où on a le dirigeant de la plus grande puissance mondiale qui peut dire tout et n'importe quoi et personne ne prend ce qu'il dit au sérieux. Et peut-être que c'est même fait exprès. Peut-être qu'il fait tout ça pour qu'à la fin, pour casser, en fait, toutes ces règles du jeu. Donc, voilà ce que moi je pense de sa déclaration. Quant à Emmanuel Macron, en effet, c'est important ce qu'il rappelle. Cependant, Emmanuel Macron n'a pas condamné la violation du droit international que représentent les attaques israéliennes. Et il est vrai que l'Union européenne n'a pas du tout condamné ces attaques et au contraire a apporté son soutien aux États-Unis et à Israël. Donc, on est comme ça dans un entre-deux, dans un en même temps, où à la fois là où il devrait y avoir condamnation, c'est-à-dire sur les principes du droit international qui permettent à l'architecture mondiale de tenir, il y a silence. Et donc, acquiescement de fait. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de commentaires de sagesse qui sont amenés pour le bien de l'Iran. Mais ce qui compte, finalement, c'est pas vraiment le bien de l'Iran, mais c'est le respect de l'architecture internationale. Et c'est ça qu'on attend des puissances européennes.
Azadeh Khan, vous venez d'entendre Shora Makaremi. Tout à l'heure, Emmanuel Macron a estimé que les frappes américaines en Iran n'avaient pas de légalité. Même si la France partage l'objectif de ne pas laisser l'Iran accéder à l'arme nucléaire, ça, c'est un en même temps aussi pour vous ?
Oui, tout à fait. Effectivement, moi, j'avais personnellement dénoncé dès vendredi, dès le jour de l'attaque israélienne contre les centrales, enfin les sites nucléaires de l'Iran et les sites militaires de l'Iran, d'ailleurs, pardon, que ces frappes étaient contraires au droit international puisque les Israéliens prétendaient avoir effectué une guerre préventive. Or, la notion de la guerre préventive est absente dans le droit international et malheureusement, à ce moment-là, les Européens, moi j'attends rien de Trump, effectivement, et je suis d'accord tout à fait avec Shora Makaremi, mais en fait même les Européens qui prétendent être les terres de la démocratie et prétendent respecter le droit international n'ont non seulement pas condamné, mais à la fois le président Macron, mais aussi les Allemands, tout ça, ont annoncé qu'Israël avait le droit d'attaquer l'Iran afin de se protéger. Mais se protéger, alors n'oublions pas qu'Israël est un pays qui a des dizaines d'ogives nucléaires. Les Iraniens n'ont pas encore de bombes atomiques avérées et fort heureusement. Et d'ailleurs, les négociations étaient en cours entre l'Iran et les États-Unis afin d'empêcher l'Iran d'accéder un jour à cette même bombe. Donc, effectivement, les attaques israéliennes, à mon avis, poursuivaient trois objectifs. Premièrement, pour ne pas laisser les Américains et les Iraniens négocier pour aller vers une solution pacifique. Deuxièmement, pour détourner le regard vers l'Iran, le regard de Gaza vers l'Iran, c'est-à-dire les massacres, les crimes contre l'humanité que Israël est en train d'effectuer depuis maintenant presque 2 ans contre les Gazaouis. Et troisièmement, de se maintenir au pouvoir. Et ce dernier point a été aussi soulevé par le président Clinton, que Netanyahu fait tout ça. Il a bombardé l'Iran pour se maintenir au pouvoir parce qu'il est était très impopulaire dans son propre pays, en Israël. Donc en fait, ce qu'on constate, et comme l'a dit aussi Shora Makaremi, on est les populations civiles, mais à la fois les populations iraniennes, mais aussi israéliennes, sont en fait mises en étau entre deux régimes et des personnalités tout à fait comme Netanyahou, criminel de guerre, et Khamenei également, qui a commis beaucoup de crimes contre sa propre population et aussi la population syrienne, entre autres. Donc, on en est là avec un Trump qui est totalement imprédictible. Il avait dit « je vais demander 2 semaines avant de prendre une décision » et de 24 heures après, il va bombarder les sites nucléaires de l'Iran. Donc, ils ne veulent même pas laisser l'OTAN à la diplomatie européenne.
Shora Makaremi, vous vouliez réagir ?
Oui, en fait, il y a une chose aussi qui me semble importante d'ajouter dans cette discussion, c'est la différence qui s'est dessinée entre la population israélienne et la population iranienne. C'est-à-dire que les frappes israéliennes sur l'Iran semblent faire, quand on écoute vos confrères et les spécialistes du champ, produire une sorte de cohésion de la population israélienne qui était très remontée contre son gouvernement et qui est désormais derrière son gouvernement. Et il faut dire que la guerre d'Israël à Gaza avait montré aux Israéliens, si on en croit les activistes et les familles des otages israéliens, cette guerre avait montré aux Israéliens que leur gouvernement, non seulement la vie des Palestiniens ne comptait pas pour le gouvernement israélien, mais la vie de ses propres citoyens israéliens ne comptait pas pour ce gouvernement. Donc en fait, il y avait une vraie pierre d'achoppement autour de ça. Et au contraire, je pense que ça c'est important de le souligner, cette guerre ne rassemble pas, je ne pense pas, la population iranienne derrière son gouvernement. Donc là, on a deux gouvernements absolument criminels envers leur population et envers, pour Israël, surtout envers les populations de la région. Mais on a un peuple iranien qui ne se réconcilie pas derrière l'idée de patriotisme, de nation, sauver la nation, comme ça a été le cas par exemple au moment de la guerre Iran-Irak. Cela dit, je dis cela sans pouvoir l'affirmer à 100% parce que il est très difficile de savoir ce que pense la population iranienne, et ça je pense que c'est très important de le dire et qu'on le sache bien. Je pense que personne ne peut dire à 100% la population iranienne pense ci ou la population iranienne pense ça. La population iranienne est divisée. Ce sont même des dilemmes qui passent par l'intérieur de chaque personne, qui peut penser plusieurs choses dans une même journée. La population iranienne est fragmentée. On sait qu'il y a très peu, 10 à 15%, peut-être 20%, de la population qui soutient vraiment le régime. Le reste est plutôt contre. Mais par contre, on ne sait pas ce qu'elle pense. Mais ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas ce sursaut national patriotique qui a été là par le passé, et qu'il y a cette peur que si Israël et les États-Unis se retirent demain, le gouvernement, le pouvoir iranien ou ce qu'il en reste pour survivre va massacrer sa propre population. Il y a aussi cet élément-là.
Mais alors Shoram Akaremi, en parlant du pouvoir iranien, on rappelle que Massoud Pezeshkian, le président, a été élu l'année dernière. Il était présenté comme un modéré. Qu'est-ce que ça veut dire un modéré en Iran ?
Je ne sais pas trop. En fait, ce terme-là de modéré avait été utilisé plutôt pour le président Rouhani, qui du coup, on pouvait difficilement dire que c'est un réformiste, puisqu'il avait été conservateur en 2009. Donc voilà, on était venu. En fait, on avait eu un glissement de l'échiquier politique vers la droite dure. Des figures plus conservatrices étaient, par la force des choses et de ce glissement, étaient devenues plus modérées par rapport au dur qui s'était durci. Donc voilà ce que ça voulait dire, modéré. Jusque-là. Massoud Pezeshkian a eu un portefeuille de ministre sous le président modéré Khatami, ce qui fait qu'il a un passé de réformateur. Que veut dire sa modération pour autant ? Il a présenté une loi pour le durcissement du port du voile qu'il a retirée sous la pression aussi pour ne peut-être pas que ce régime implose. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que le pouvoir iranien a un art de maintenir l'équilibre afin de garantir sa survie. Et ce que rappelait Azadeh Kian par rapport au fait que peut-être il y aurait eu des avertissements et donc ils auraient appliqué la doctrine Soleimani en avertissant les États-Unis avant de les attaquer, ça fait partie de cet art de gouverner qui fait que on se montre extrêmement intransigeant, mais en fait on s'est tout à fait transigé et on fait preuve d'une extrême souplesse pour arriver à garder le pouvoir. Le clergé iranien est rompu à l'exercice du pouvoir depuis le 15e siècle.
Azadeh Kian, aujourd'hui le régime iranien est à deux têtes. Alors certes, il y a Massoud Pezeshkian, mais il y a aussi l'ayatollah Khamenei. Qui tient les rênes du pays en réalité ?
Visiblement, c'est pas Pezeshkian qui est le président, parce que même selon la constitution de ce régime, le président n'a pas énormément de pouvoir, c'est le guide, bien évidemment. Mais à l'heure actuelle, je dirais, c'est ni le guide, ni Pezeshkian, ce sont les gardiens de la révolution, et ce, depuis de nombreuses années. Et on a glissé d'un régime théocratique vers un régime militaro-théocratique, et aujourd'hui, avec Khamenei qui se cache, et on est de plus en plus en train d'aller vers un régime carrément militarisé, puisque pendant la guerre, ce sont des gardiens de la révolution qui ont l'essentiel de pouvoir. D'ailleurs, ces missiles balistiques ou autres, les équipements militaires, les sites nucléaires, etc., étaient surtout dirigés et gérés par les gardiens de la révolution. Donc, si Khamenei venait à disparaître, soit par des frappes israéliennes, soit parce qu'il est âgé, à ce moment-là, en l'absence d'une alternative de la société civile iranienne qui, pendant les moments de guerre, moi, ça m'étonnerait fort que cette alternative puisse émerger, on pourrait effectivement envisager soit que l'Iran aille vers davantage de pouvoir pour les gardiens de la révolution, si la guerre continue, si les bombardements continuent, et ce qui voudrait dire effectivement l'intensification de la répression déjà existante contre les opposants au régime et contre la société civile iranienne. On voit déjà des personnes qui sont arrêtées et qualifiées d'espions d'Israël, exécutées, et aussi effectivement on est très inquiet pour les prisonnières politique, surtout après aussi le bombardement de la prison d'Evin. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes prisonnières politiques qui ont été blessées. Il n'y a pas de soins à ces prisonnières politiques et on les laisse subir à la fois les conséquences de la répression et politique répressive du régime et d'un autre côté les bombardements israéliens. Donc effectivement, on en est là actuellement malheureusement en ce qui concerne les rapports de pouvoir, je dirais, entre les tenants du régime. Modération en temps de guerre n'a absolument aucun sens, d'autant que le président iranien n'a jamais eu beaucoup de pouvoir, même si effectivement, contrairement à Khamenei qui se tait, qui se cache, Pezeshkian a fait un bain de foule hier en sortant et en participant à un bain de foule de leur propre, bien sûr, base populaire, c'est-à-dire 10% ou 15% de la population.
Shora Makaremi, Reza Pahlavi, l'héritier du Shah d'Iran, chassé il y a plus de 45 ans du pouvoir et qui vit aujourd'hui aux États-Unis, appelle lui au soulèvement de la nation. Est-ce que sa voix compte encore, est encore écoutée en Iran ?
Alors, sa voix est relayée en Iran par des médias qui sont très bien, qui sont regardés par les Iraniens, qui se sont détournés de la télé nationale beaucoup. Ce sont des médias qui produisent, qui fabriquent l'information transmettent depuis l'étranger. Donc, c'est un discours qui est construit depuis un moment et qui diffuse. Donc, je ne vais pas dire que sa base est nul. Cependant, la question, c'est de savoir quelles sont ses possibilités de relais ce que je remarque également, c'est qu'au moment du soulèvement Femme, Vie, Liberté, Reza Pahlavi s'était déjà avancé comme étant une alternative et à l'époque avait fait une tentative de coalition avec d'autres figures de la société civile, dont par exemple Shirin Ebadi à l'époque. Cette tentative-là avait implosé du fait de l'autoritarisme de Reza Pahlavi, qui était incapable en fait de travailler avec des personnes qui n'étaient pas exactement sur sa ligne. Et depuis lors, c'est ce qui a beaucoup affaibli aussi le soulèvement Femme, Vie, Liberté, de voir qu'il n'était pas. Et depuis lors, les actions de Reza Pahlavi, me semble-t-il, sont beaucoup plus en coordination avec des puissances étrangères qu'avec la société civile iranienne.
Alors, deux autres noms circulent comme potentiel candidat à la succession au pouvoir en cas de chute du régime des Mollahs. Il y a Narges Mohammadi, on le rappelle, prix Nobel de la paix 2023, militante iranienne des droits de l'homme, et Mariam Rajavi. Elle vit en France, elle est à la tête du mouvement d'opposition le plus organisé, le plus controversé d'Iran. Est-ce que, très rapidement, l'Iran, selon vous, serait prêt à mettre une femme au pouvoir ?
Ça dépend.
En quelques mots.
Oui, en quelques mots. L'Iran, qui est l'Iran ? Est-ce que selon des élections libres et démocratiques ?
Oui.
Alors certaines personnes demandent un référendum organisé par l'ONU pour savoir ce que pensent vraiment les Iraniens. Donc que veut dire l'Iran ? Je pense que si Mariam Rajavi arrive au pouvoir, ce n'est pas les Iraniens qui l'y mettront, mais peut-être une puissance étrangère. Donc il faut savoir ce qu'on entend par l'Iran est prêt à mettre une femme au pouvoir. La population iranienne. Mais quand est-ce qu'on va lui donner cette possibilité-là ?
Merci beaucoup, Shora Makaremi. Merci également à vous, Azadeh Kian. Merci à toutes les deux d'avoir été les invités de RFI ce soir. Bonne soirée.
Merci.